Bon matin tout le monde, heureux de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Merci d'être des nôtres, que vous soyez du portail, évidemment, on a hâte de vous voir. Du Québec, salutations particulières à l'Abitibi, de France, d'Europe, on est vraiment heureux, même d'Afrique, heureux, encore une fois, de pouvoir vous avoir des nôtres. Nous continuons notre série sur les Actes des Apôtres, c'est la troisième portion, on termine le livre des Actes des Apôtres, et la série se nomme toujours, comme dans tout a toujours rapport avec Jésus, donc on veut démontrer comment être un disciple de Jésus se fait au quotidien. Et on est à la fin des trois voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, Dieu lui met à cœur de retourner à Jérusalem. Donc, d'aller à Jérusalem, il a une collecte. Donc, alors qu'il a fait du ministère parmi les non-juifs, parmi les chrétiens des églises non-juives, leur cœur est touché. Il y a une famine à Jérusalem, il y a des pauvres. Et il a levé une collecte et il veut aller la porter à Jérusalem. Puis, il veut être là pour la Pentecôte. Donc, c'est un projet qui lui tient à cœur. Et on voit à partir du chapitre 19, à trois reprises, Paul mentionne qu'il a sur son cœur de retourner à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que certains commentateurs vont dire que c'est une erreur monumentale de l'apôtre Paul. Même certains commentateurs vont dire que l'apôtre Paul, en voulant retourner à Jérusalem, va contre la volonté de Dieu. Je te lis ce qu'un commentateur a écrit. Il dit « Jésus avait ordonné à Paul d'aller loin de Jérusalem pour exercer son ministère parmi les non-juifs. Et il lui avait interdit, au travers de plusieurs prophéties, de remettre les pieds, mais Paul a laissé ses émotions prendre le dessus sur sa raison et est retourné à Jérusalem contre la volonté de Dieu, où il a été arrêté et emprisonné. » Et je pense que ce commentateur est dans l'erreur. Humblement, il est dans l'erreur. Je pense que Paul comprenait très bien la volonté de Dieu. Et c'est le thème de mon message aujourd'hui. Le titre, c'est « Comment connaître la volonté de Dieu? » C'est un sujet, en tant que pasteur, c'est un sujet qui, au travers des années, qui est souvent très demandé. Il y a plusieurs questions. Les chrétiens, plusieurs chrétiens veulent découvrir. En fait, je crois que tous les chrétiens veulent connaître la volonté de Dieu. Mais c'est un sujet difficile. C'est Jean Calvin, le grand théologien, qui dit que la connaissance de la volonté de Dieu est parfois pénible, triste et angoissante. C'est un sujet complexe. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu exécute sa volonté envers et contre tous. Dieu fait ce qu'il veut. Mais en même temps, Jésus nous a enseigné de prier, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ce que Calvin veut dire, il y a comme un dilemme entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. On parle de faire la volonté de Dieu, d'être hors de la volonté de Dieu, mais Dieu va d'une manière ou d'une autre accomplir sa volonté. C'est pourquoi Kevin DeYoung va dire « La volonté de Dieu est l'une des expressions les plus déroutantes du vocabulaire chrétien. » Maintenant, aujourd'hui, j'ai un message très pratique basé sur la parole de Dieu pour t'aider à connaître la volonté de Dieu, discerner la volonté de Dieu pour une direction personnelle, une décision personnelle, peut-être dans une déception que tu vis. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que le thème de la volonté de Dieu est quelque chose de complexe? C'est que je l'ai mentionné, Dieu est souverain. Maintenant, la souveraineté de Dieu veut dire que Dieu contrôle tout. L'omniscience de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui sait tout, jumelé à l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu peut tout, amène nécessairement un Dieu souverain. Concrètement, ça veut dire, et les théologiens dans l'histoire ont donné cette grande définition, cette belle définition de la souveraineté de Dieu qui est « De toute éternité, selon le très sage et saint conseil de sa propre volonté, voyez-vous, on parle de volonté de Dieu encore, Dieu a librement et immuablement ordonné tout ce qui arrive. » Et certains chrétiens ont la difficulté avec un Dieu qui contrôle tout. Maintenant, si ton Dieu ne contrôle pas tout, ton Dieu n'est pas Dieu. Tu crois à une entité surnaturelle, mais ce que tu pries n'est pas Dieu, parce que par définition, Dieu est souverain. Et même Jésus a enseigné que la souveraineté de Dieu implique que Dieu contrôle tout. Jésus a dit qu'il n'y a pas un petit oiseau qui tombe à terre hors de la volonté de Dieu. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. C'est encore une fois le grand théologien R.C. Sproul qui va dire « Rien ne se passe sans que Dieu le veuille, avant ou après que Dieu le veuille, ou d'une autre manière que Dieu le veuille. Tout ce qui se produit dans le monde se produit selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, dans le monde, présentement, que Dieu n'a pas voulu. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie hors du timing de Dieu. Et non seulement il n'y a rien qui arrive hors du timing de Dieu, il n'y a rien qui se produit dans ta vie hors de la manière que Dieu l'a décrété. Dieu contrôle tout. Mais Dieu permet le péché, l'erreur et la tragédie. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. La Bible dit que Dieu nous livre à nous-mêmes quelquefois. La Bible dit que Dieu nous permet d'avoir ce qu'on veut. Et alors qu'on est charnel, vendu au péché, souvent, et plus souvent qu'autrement, on veut la mauvaise chose. Donc, en préambule, c'est important pour comprendre la volonté de Dieu, c'est important de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Dieu a une volonté parfaite pour ta vie. Est-ce que tu crois ça? Le psaume 139 dit « Alors que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, Dieu connaissait tous les jours qui m'étaient destinés. Dieu a un plan parfait pour ta vie. » Mon ami, Dieu a contrôlé ton ADN. Dieu contrôle ta géographie. Dieu contrôle ta vie conjugale. Dieu a un plan pour ta vie familiale. Dieu a un plan pour ta vie académique. Dieu a un plan pour ta vie professionnelle. Dieu a un plan pour ta vie spirituelle. Dieu a une volonté parfaite pour ta vie. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que le chrétien doit faire la volonté de Dieu. Et le thème de mon message, c'est si on veut faire la volonté de Dieu, on doit connaître la volonté de Dieu. Et une des mauvaises conceptions que les chrétiens ont souvent sur la volonté de Dieu, c'est qu'on pense que Dieu est un peu un animateur de quiz, où il nous donne des indices, mais il s'amuse à ne pas nous donner tous les éléments afin qu'on soit un peu dans la confusion. Je veux juste te dire que ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut que tu comprennes la volonté. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire « comprenez la volonté de Dieu ». Donc, Dieu n'est pas un animateur qui s'amuse avec ta vie. Dieu te donne assez d'éléments pour que tu puisses faire sa volonté. On va voir ça ensemble. Deux extrêmes sur la volonté de Dieu. Certains chrétiens sont paralysés par la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont tellement angoissés par la volonté de Dieu qui, le matin, lorsqu'ils se lèvent, se demandent encore « Quelle est la volonté de Dieu pour savoir quelle couleur de chaussettes je vais mettre? » Donc, il y a des chrétiens qui sont angoissés parce qu'ils croient qu'à chaque seconde, sachant que Dieu est souverain, ont toujours l'impression d'être hors de la volonté de Dieu ou ont peur de déplaire à Dieu. Et à l'autre extrême, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Ton problème, c'est que tu banalises, pour ne pas dire méprises, la volonté de Dieu. La dernière année nous l'a montré. C'est Jacques qui dit, « Ne dites pas, demain nous ferons telle chose, nous irons en voyage, nous ferons telle affaire. Dites plutôt Dieu voulant, car votre vie n'est une vapeur, n'est qu'une vapeur. » Les derniers mois nous ont montré qu'on ne contrôle pas grand-chose. Et le fait qu'on ne contrôle pas grand-chose nous rappelle que Dieu contrôle l'ensemble. Et c'est pourquoi beaucoup des chrétiens disaient autrefois « Dieu voulant, Dieu voulant ». Et je suis d'accord, c'est une belle manière d'introduire un plan. Dieu voulant, maintenant, pas par religion, quelquefois on disait Dieu voulant, Dieu voulant, Dieu voulant, mais avec cette conviction que oui, nous allons voyager, oui, nous allons faire des trucs, oui, on veut se marier, on veut bâtir des projets, on veut développer, on a des projets, on veut acheter une maison, mais réalisant toujours qu'on va le faire Dieu voulant. Donc, sans plus tarder, allons ensemble dans la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 21. Donc, on va voir ensemble comment connaître la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu de manière très, très, très pratique. Donc, c'est la fin du troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il retourne à Jérusalem et voici ce que la parole déclare, verset 1. Après nous être séparés d'eux, nous avons fait voile pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes embarqués pour faire voile plus loin. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour aborder à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours. Écoute bien. Poussés par l'Esprit, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis accompagnés de tous avec leurs femmes et leurs enfants. Nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville. Nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Puis après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes embarqués sur le navire. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. Verset 7. Achevant notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs et nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, un des premiers diacres, on l'a vu, le premier, celui que Dieu s'est servi pour amener le réveil à Samarie, qui était l'un des sept diacres de l'église de Jérusalem. Nous avons demeuré chez lui. Philippe avait 4 filles vierges, donc des jeunes filles qui prophétisaient, qui avaient le don de prophétie. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. » Nous voyons là-dedans, premièrement, des principes pour connaître la volonté de Dieu pour une direction personnelle. Je répète que Paul a une conviction d'aller à Jérusalem. Pour Paul, c'est la volonté de Dieu d'aller à Jérusalem. Et nous sommes dans un contexte prophétique où on a les disciples de Tyr qui, poussés par l'Esprit, vont dire à Paul, « Vas-y pas! » Donc, d'un côté, le Saint-Esprit dit à Paul d'y aller, puis on a des disciples remplis de l'Esprit qui disent à Paul, « Vas-y pas! » Ensuite, on voit que Paul va loger chez Philippe, et Philippe a des filles qui prophétisent, qui ont le don de prophétie. Et ensuite, Dieu envoie Agabus qui vient dire à Paul, « Voici à Jérusalem ce qui va t'arriver, tu vas être lié. » Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul a une conviction que la volonté de Dieu, c'est d'aller à Jérusalem. Mais les disciples ont la conviction que d'aller à la volonté, que d'aller à Jérusalem n'est pas la volonté de Dieu. On voit également, c'est intéressant, que Agabus arrive et encore une fois donne cette parole. Voici ce qui va arriver. Maintenant, première chose que je veux dire, c'est que le passage démontre qu'il n'est pas toujours facile de discerner la volonté de Dieu. Et même des chrétiens matures, remplis de l'Esprit, peuvent être parfois en désaccord sur ce que Dieu veut vraiment. Maintenant, je veux te donner 8 clés pour connaître la volonté de Dieu pour une direction personnelle dans ta vie. La première clé, c'est que Dieu commence toujours par une perception. Alors, on l'a vu, l'apôtre Paul, à un moment donné, il est à Éphèse et Dieu met sur son cœur d'aller à Jérusalem. Ça commence toujours avec une impression, une perception. Si tu es un chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis connaissent ma voix. » Dieu te parle. Et Dieu ne te parle pas de manière audible, il te parle par des perceptions, une impression. Et cette perception, avec le temps, va devenir une conviction. C'est un peu l'image que j'ai, c'est que lorsque Dieu déverse quelque chose dans nos cœurs, c'est un peu comme du béton. Hein, au début, c'est malléable, ça se promène, on n'est pas convaincu, mais avec le temps, ça durcit. Une perception qui vient de Dieu, avec le temps, elle durcit, devient une conviction. Ah, ça commence avec une perception. La première fois que j'ai vu mon épouse, je me suis dit, est-ce que ça pourrait être la femme de ma vie? Une perception qui est devenue une conviction. Un jour, j'étais dans un ralliement jeunesse et j'entendais un prédicateur, un pasteur apporter la parole de bonne nouvelle de Jésus. Puis j'ai une perception. Est-ce que Dieu m'appelle à être pasteur? Et cette perception est devenue une conviction. Et constamment dans ma vie, Dieu a utilisé des perceptions qui sont devenues des convictions. Donc, ça commence toujours par une voix douce et subtile. La deuxième chose pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie, c'est le pourquoi. Quelles sont tes motivations pour prendre cette décision? Paul dit, je suis prêt à aller à Jérusalem pour être béni, avoir du succès, être prospère, être heureux, épanoui. Non. Il dit, je suis prêt à souffrir pour Jésus. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. Présentement, là, toi qui se poses une question, tu as besoin d'une direction, à savoir, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Je te pose la question. Est-ce que les différents scénarios qui sont devant toi sont pour la gloire de Dieu ou pour ta propre gloire? Est-ce que les différents scénarios sont pour ton bien-être à toi ou pour la gloire de Jésus? C'est vraiment important parce que la volonté de Dieu t'amène toujours dans la gloire de Dieu. Je répète, la volonté de Dieu t'amène toujours dans la gloire de Dieu. Troisièmement, pour connaître la volonté de Dieu, consulte les personnes autour de toi. On voit Paul qui, encore une fois, des gens autour de lui, et il écoute. Hein, Paul ne, même si Paul est en désaccord avec les disciples de Tyr, il écoute ce qu'ils ont à dire. Il a écouté les anciens d'Éphèse. Il écoute Agabus. Paul écoute ce que les autres, remplis de l'Esprit, ont à dire. Frères, sœurs, si tu veux connaître la volonté de Dieu, écoute ce que les gens matures spirituels ont à dire autour de toi. La Bible dit que la sagesse te salue dans le grand nombre de conseillers. Vous savez, au portail, il n'y a rien qui prend place au portail sans que j'aie consulté l'équipe pastorale. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la prétention de croire que le Saint-Esprit parle seulement au travers de Gaétan Brassard. Je crois que mes frères et mes sœurs qui ont le Saint-Esprit, que Dieu dirige son Église avec une équipe. Je vais aller plus loin. À tous les hommes autoritaires, quand Dieu, en tant que leader, je vais le dire autrement. J'ai un leadership spirituel dans ma maison. Mais je ne prends jamais de décision sans consulter mon épouse et sans être d'accord, sans que mon épouse soit d'accord avec la décision. Pourquoi? Parce que je me dis que si le projet vient de Dieu et vient du Saint-Esprit dans mon cœur, le Saint-Esprit va également confirmer ce projet dans le cœur de mon épouse. Trop d'hommes prennent des décisions unilatérales disant que c'est moi le maître du foyer, alors que le leadership spirituel implique justement de comprendre que si le Saint-Esprit te parle, il va parler à ton épouse. J'ai déjà raconté ceci. Lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on était jeunes croyants, jeunes mariés dans une église. Et un jour, il y a eu une porte qui s'est ouverte pour devenir pasteur jeunesse dans une autre église. Mon épouse ne voulait rien savoir. On était bien dans l'église où on était, elle ne voulait rien savoir. Et moi, je priais. Et moi, j'avais la conviction que Dieu nous amenait dans cette autre église. Mon épouse, on discutait et on n'était pas d'accord. Elle me dit, « Sais-tu quoi? Je ne suis pas d'accord, mais je sais que tu veux le bien de notre foyer. Je sais que tu ne vas jamais prendre une décision juste pour toi-même. Donc, même si je ne suis pas d'accord, je vais te suivre. » Maintenant, je veux juste te dire que quand je me suis mis sur mes genoux pour vraiment avoir une confirmation de la volonté de Dieu, c'était vraiment avec crainte et tremblement parce que je savais, encore une fois, je voulais me montrer digne de la confiance que ma femme me témoignait. Et Dieu a confirmé. Quelquefois, dans un désaccord, encore une fois, dans la prière, Dieu va répondre. Et regarde, quatrièmement, ça prend une pondération. OK, je vais être clair ici. Les disciples de Tyr disent à Paul, poussé par l'Esprit, « Va pas à Jérusalem. » Paul reçoit les paroles, reçoit les prophéties, hein, reçoit les gens qui disent « Voici ce que j'ai sur mon cœur, voici ce que je pense que Dieu dit, voici ce que je pense, quelle est la volonté de Dieu. » Et l'apôtre Paul dit « Je vais réfléchir. » Et l'apôtre Paul va pondérer les commentaires. C'est pourquoi la Bible le dit. Hein? Puis il va dire, à un moment donné, il va évaluer, puis il va dire, pourquoi vous me brisez le cœur? Non, non, non. Dieu, la volonté de Dieu, c'est d'aller à Jérusalem. Donc, Paul ne fait pas un concours de popularité. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 29, que quand quelqu'un pense avoir quelque chose sur son cœur, hein, la prophétie, puis j'enseignais là-dessus, une communication spirituelle spontanée, on ne dit pas ainsi par l'Éternel, c'est qu'on parle, puis on pense que dans un contexte particulier, Dieu peut t'amener à donner une parole, peut t'amener à communiquer quelque chose, un encouragement qui est vraiment, vraiment right to the point, comme on dit en hébreu, puis la personne va être wow, vraiment, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Et Paul dit que lorsque dans l'Église, lorsqu'on est réunis dans un petit groupe où on prend un café puis quelqu'un pense avoir une parole qui vient précisément de la part de Dieu, Paul dit « juger puis évaluer ». C'est pourquoi la Thessalonicien va dire « ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, délaissez le pas bon ». Et Paul a compris que le Saint-Esprit lui parle, puis parle aux frères et aux sœurs, mais que nous sommes tous faillibles. Qu'aucun chrétien peut dire « ainsi parle l'Éternel ». Pourquoi? Parce que nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs. Donc, Dieu nous parle, mais nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes faillibles. Dieu est infaillible, mais nous sommes faillibles. Là, c'est un peu... Et ce qu'on doit faire lorsqu'on va chercher les conseils des frères et des sœurs, c'est un peu comme le café. Lorsque tu mets un filtre, il y a une séparation, c'est-à-dire on retient les grains et ce qui est vraiment essentiel, le café, va passer dans la cafetière. Et tu dois filtrer les commentaires des frères et des sœurs et même que filtrer tes motifs à toi pour discerner ce qui est vraiment de l'Esprit de Dieu, ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. En fait, les disciples de Tyr, Dieu leur a montré que Paul était pour souffrir à Jérusalem. Mais pourquoi ils disent « vas-y pas » parce qu'ils aiment Paul. Ils aiment Paul. Donc, en fait, c'est que leur amour pour Paul va contaminer leur perception de la situation. Donc, il y a une fusion entre « voici la révélation de ce qui va arriver » puis l'interprétation qu'ils en font. Hein, c'est comme si je vous dis « Dieu m'a mis à cœur d'aller dans tel pays » en Arabie Saoudite, pour implanter une église, puis je vais le faire coûte que coûte, puis je suis prêt à donner ma vie. Il y a des frères et des sœurs remplis de l'esprit qui vont dire, non, non, fais pas ça, pasteur Gaétan. J'espère que tu m'aimes assez pour... Mais peut-être que Dieu pourrait me dire d'y aller. Donc, tu vois, c'est exactement ce qui prend place. Tu as besoin de pondérer. Cinquièmement, pour connaître la volonté de Dieu, tu as besoin de prier. On voit Paul avec les disciples, ensuite ils vont prier. Ils vont dire plus tard que la volonté de Dieu se fasse. Jésus, même Jésus, dans le jardin de Gethsémané, il y a comme une opposition entre la volonté de Jésus dans son humanité, la volonté du Père, et Jésus va dire, « Père, c'est possible, enlève de moi cette coupe. C'est possible, enlève la croix, éloigne la croix de moi. » Puis à un moment donné, dans la prière, il se reprend et il dit, « Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » Lorsqu'on prie, c'est ce qu'on dit à Dieu, « Seigneur, moi je suis imparfait, mais que ta volonté se fasse. » Lorsqu'on était encore une fois jeune marié, on priait. On ne savait pas si c'était le bon timing pour avoir un enfant. On était jeune marié. On se disait, est-ce qu'on attend? On n'est pas établi. On n'a pas des finances solides. Puis, bon, on se disait, on va prier. Puis la semaine, on s'est mis, on priait. On disait, Seigneur, montre-nous, est-ce que c'est le temps d'avoir des enfants? Ou est-ce qu'on attend? T'sais, on ne sait pas. On aimerait, mais on ne sait pas. On ne sait pas si c'est sage. Puis, quelques jours après qu'on ait commencé à prier, on reçoit un coup de téléphone de l'épicerie à côté de où on habitait. Puis mon épouse avait rempli un concours. Puis finalement, on me dit, « Félicitations, madame, vous avez gagné un concours de plusieurs centaines de dollars. Vous avez gagné plein de trucs pour les bébés. Vous gagnez un parc, vous gagnez des couches, vous gagnez de la nourriture, vous gagnez du lait en poudre. » On s'est dit, « OK, que la volonté du Seigneur se fasse. » C'était clair. Mais tu vois, baigner dans la prière, c'est pas le hasard. Sixièmement, la paix. Paul est en paix. Paul dit, « Non, je suis prêt. » Une des marques que tu marches dans la volonté de Dieu, après toutes ces étapes, c'est qu'il y a une paix dans ton cœur. La Bible dit que Dieu nous conduit dans le chemin de la paix, dans le sentier de la paix. Parenthèse, je vais faire un avertissement. La paix n'est pas toujours un bon indicateur que tu es dans la volonté de Dieu. Il y a eu un événement, puis je nomme pas de détails, mais il y a eu un événement, un gros scandale sexuel, puis tout ça, puis avec des pasteurs, puis... Une des femmes là-dedans, des hommes, des femmes, puis une des femmes là-dedans, elle se dit, moi, je suis chrétienne, puis elle a dit, ben moi, je vais donner mon histoire à Playboy, puis je vais poser pour Playboy. Puis on lui a dit, ouais, mais tu dis chrétienne, tu sais, puis elle dit, ouais, mais Dieu m'a donné la paix. Tu sais, la Bible dit qu'il y a quelquefois une fausse paix. Quelquefois, il y a des gens, tu es dans la paix, il y a du monde qui sont en paix de divorcer, qui sont en paix de faire des choses que la Bible condamne. Donc, la Bible parle d'une fausse paix. Donc, il faut faire attention. On continue. Septième manière de connaître la volonté de Dieu, c'est de t'appuyer sur la promesse de Dieu. Hein, ils vont dire, les disciples vont dire, que la volonté de Dieu se fasse. Ils font confiance à la direction de Dieu. La Bible dit, Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, le psaume 32. Je donne des exemples personnels, non pas parce que je vais me prendre un exemple, mais juste pour illustrer et appliquer ces principes-là, parce que quelquefois, c'est tellement abstrait, puis je ne peux pas parler d'autre chose que ce que je connais, que ce que j'ai expérimenté. Lorsque j'étais pasteur jeunesse, l'histoire que je racontais tout à l'heure, à un moment donné, Dieu nous a mis à cœur d'implanter une église. Et j'étais pasteur à temps plein. Vous savez, être pasteur des postes à temps plein, il n'y en a pas des tonnes là, au Québec. Puis j'étais pasteur à temps plein depuis peu de temps. Puis Dieu m'a mis à cœur d'aller implanter une église, de tout laisser ça, puis de partir à zéro, puis d'implanter une église. Et là, on priait à savoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Encore une fois, là, j'avais des jeunes enfants, de laisser mon travail, puis de partir, marcher par la foi, puis implanter une église. Et je vous évite les détails, mais finalement, le matin où j'étais voir mon boss, mon pasteur principal, puis je lui ai dit, finalement, c'est fait, on va implanter une église, donc... Je vais laisser mon poste dans la bénédiction, puis tout ça. L'après-midi même, je reçois un appel des hommes d'affaires de Toronto, qui, je vous évite les détails, là, que j'avais déjà croisés, puis ils me disent on aimerait ça te rencontrer. Et ils me donnent rendez-vous dans un McDonald's, puis j'arrive dans un McDonald's, puis ces hommes-là, ils disent, nous, notre don, c'est de faire de l'argent, c'est de faire de la business, puis c'est de faire de la business pour soutenir l'œuvre de Dieu. Puis nous, on croit que le Québec a besoin de plus d'églises, puis on pense que tu vas pour partir, tu as des sacrifices, tu as besoin d'être soutenu. Donc, nous, on te fait un chèque de 10 000 $ immédiatement. Voyez-vous, à quelques heures de différence. Donc, la promesse de Dieu, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, à un moment donné, il faut que tu fasses confiance à la promesse de Dieu. Et comment connaître la volonté de Dieu pour une direction personnelle? Perception, le pourquoi, les personnes, pondération, prière, paix, promesse, persévérance. Accroche-toi à ce que Dieu a pour toi. Je continue. Versets 15 à 26. Après ces jours-là, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples vinrent aussi avec nous de Césarée conduisait chez un certain Mnason de Chypre, disciple déjà ancien, chez qui nous devions loger. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens y vinrent aussi. Après les avoir salués, il se met à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu d'eux, au milieu des païens par son ministère. En l'écoutant, ils glorifiaient Dieu, puis lui dirent, « Tu vois, frère, combien des dizaines de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, on leur fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse en leur disant de ne pas circoncire leur enfant et de ne pas suivre les coutumes. Qu'en est-il donc? Certainement, la multitude se rassemblera quand on saura que tu es venu à Jérusalem. C'est pourquoi, fais ce que nous te disons, il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense pour qu'ils se rasent la tête. Alors tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés de l'inconduite. Le lendemain, Paul prit ses hommes, se purifia avec eux, entra dans le temple et annonça à quel moment les jours de leur purification seraient achevés et l'offrande présentée pour chacun d'eux. OK, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Je vais aller à l'essentiel. On voit, après la parole illustre comment discerner la volonté de Dieu pour une direction personnelle, hein, c'est-à-dire où je vais habiter, la carrière, pour mon mariage, pour quelle église, pour de grandes décisions de vie. Quelquefois, on a besoin de la volonté de Dieu pour des décisions personnelles. C'est-à-dire, quelquefois, on cherche Dieu pour une direction personnelle, mais quelquefois, c'est pour une décision, pour une situation particulière. On fait face à un dilemme, puis on se demande, mais quelle est la volonté de Dieu? Un dilemme dont la Bible ne parle pas explicitement, puis on se dit, mais quelle est la volonté de Dieu? Par exemple, ça peut être, tes enfants ont été élevés dans l'église, ils ne suivent plus le Seigneur, ton fils rencontre une fille, elle ne connaît pas, elle sait pas c'est quoi l'église, tout ça, ont des enfants, puis les font baptiser à l'église catholique. Et là, tu te dis, mais pour moi, ce n'est pas ça le baptême. Donc, est-ce que je vais au baptême de mes petits-enfants? Ça peut être ton frère gay qui t'invite à son mariage. Tu sais, la Bible ne dit pas explicitement quoi faire quand ton frère gay t'invite à son mariage. Ça peut être, est-ce que je me fais vacciner? C'est tout un débat. Est-ce que je devrais fumer du cannabis? Est-ce que je devrais lire 50 nuances de gris? Est-ce que je devrais m'acheter une Ferrari? Est-ce que je devrais faire un barbecue illégal? Plein de dilemmes quotidiens où tu as besoin d'avoir... Comment appliquer la volonté de Dieu dans ces éléments? Maintenant, on voit ici ce qu'on dit à Paul. C'est, on dit, Paul, vois-tu, il y a des hommes qui, dans la coutume, donc de ces juifs, de ces chrétiens juifs de l'Église de Jérusalem, qui continuent à respecter les coutumes de l'Ancien Testament, non pas pour être sauvés, mais simplement parce que c'est culturel. Donc, ils ont fait un vœu de Nazirea. On retrouve ça dans Nombre 6, c'est-à-dire, pour une période, tu te consacres à Dieu, tu ne te mets pas en état d'impureté rituelle, on va écouter la série sur Lévitique, tu ne te coupes pas les cheveux, tu ne prends pas d'alcool, c'est une période de consécration, et à la fin, tu offres ton sacrifice, tu te fais couper les cheveux. Bon, puis on dit à Paul... De un, tu devrais aussi, toi aussi, te purifier rituellement, c'est-à-dire parce que tu as été tellement longtemps en terre païenne, donc ça va être une pierre d'achoppement pour les Juifs, ils vont te considérer impur, donc soumets-toi à la coutume. Et ça se faisait aussi à l'époque de défrayer pour les frères, donc comme ça, tout le monde va voir que tu n'es pas anti-juif. C'est ça qui prend place ici. Est-ce que tu es anti-juif? Puis en fait, Paul va accepter de le faire, non pas par conviction spirituelle, parce que c'est réglé, hein? On a vu dans Acte 15, l'Église a dit qu'on est sauvé par grâce, on n'a pas besoin, c'est pas la circoncision, c'est pas de respecter les règles de l'Ancien Testament, mais Paul va le faire non pas par conviction spirituelle, mais par sensibilité culturelle. Exemple, les consécrations qu'on fait au portail, la Bible ne parle pas de consécration. Hein, on prend une coutume de l'Ancien Testament qu'on va christianiser dans un contexte québécois où on baptise des enfants. Non. Mais la Bible ne parle pas, donc c'est un accommodement culturel qu'on fait. Plusieurs personnes, pour aller dans la même veine, les parrains et les marraines. La Bible ne parle pas de parrains et de marraines, ce n'est pas biblique. Donc, mais pourquoi? Mais c'est culturel. Donc, un chrétien qui, pour son enfant, va nommer une marraine et un parrain. C'est pas mal, c'est culturel. C'est pas spirituel, c'est culturel. Dans certaines cultures, la dot... Hein, la Bible, le Nouveau Testament ne parle pas de la dot. Donc, c'est culturel. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on est chrétien qu'on rejette tout ce qui est culturel. Mais non, on a une sensibilité culturelle, mais on sait que c'est secondaire. Et l'apôtre Paul a un dilemme devant lui. On lui dit, est-ce que tu peux justement t'occuper de ces sacrifices, défrayer, donc t'associer, participer à cette coutume culturelle? Et l'apôtre Paul va établir un principe pour prendre des décisions compliquées. Ce principe se trouve dans 1 Corinthiens 10, 23. Puis on le voit ici, il est illustré. L'apôtre Paul va dire, quand tu fais face à un dilemme, tu devrais toujours te poser la question basée sur ce verset qui dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais celui d'autrui. » Donc, il y a quatre étapes pour savoir connaître la volonté de Dieu. Premièrement, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit par la parole de Dieu? Est-ce que les éléments qu'on mentionne, est-ce que ton dilemme dans ta vie, est-ce qu'il y a un passage, un verset qui l'interdit clairement? Sinon, tu passes à la deuxième étape. Généralement, c'est des sujets que la Bible ne parle pas explicitement. Donc, est-ce que c'est utile? C'est-à-dire, est-ce que ça va affecter ta communion avec Jésus? Une autre manière de le dire, c'est que quand tu fais face à un dilemme, est-ce que tu serais capable d'amener Jésus avec toi, le tenir par la main pour participer puis le regarder les yeux dans les yeux? Donc, est-ce que tu serais capable d'amener Jésus au baptême de tes petits-enfants? Est-ce que tu serais capable d'amener Jésus avec toi au mariage de ton frère gay? Est-ce que tu serais capable d'amener Jésus avec toi pour te faire vacciner? Est-ce que tu serais capable d'amener Jésus avec toi pour fumer du cannabis? Est-ce que tu serais capable d'amener Jésus avec toi puis lire ensemble 50 nuances de gris? Est-ce que tu serais capable de conduire ta Ferrari avec Jésus à côté de toi? Est-ce que tu serais capable d'avoir Jésus qui flippe tes bouteilles, qui flippe tes boulettes pendant ton barbecue illégal? C'est le principe. Troisièmement, est-ce que c'est asservissant? Est-ce que ça enlève ta liberté chrétienne? Par exemple, la cigarette. La cigarette, c'est pas clair, la Bible n'en parle pas. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Mais même si quelqu'un va dire « oui, c'est utile, moi, ça me relaxe. » Oui, mais c'est asservissant. Tu deviens dépendant. Le vin, c'est plus socialement acceptable, mais si tu as besoin de boire de l'alcool à tous les jours, ça devient asservissant. Même des choses nobles, comme par exemple, les pasteurs, vous savez, c'est quoi, nous, notre dépendance? C'est les livres de théologie. Mais ça peut devenir asservissant. À un moment donné, si tu mets trop d'argent, trop dans ton budget, il y a trop d'argent qui va pour tes livres de théologie, puis tu négliges autre chose, c'est mal. Ça devient asservissant. Il y a des gens, c'est l'entraînement. Nomme-les donc, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est asservissant? Puis quatrièmement, est-ce que c'est une pierre d'achoppement pour les autres? Est-ce que tu cherches ton propre intérêt ou celui d'autrui? Je parlais avec un de mes amis pasteurs qui me disait que lui, c'est un homme qui aime les tatous. Il n'a pas de tatous, il aime les tatous. Et si c'était juste de lui, il y aurait des tatous avec des versets bibliques, puis il aime les tatous. Bon. Puis quand tu regardes à la parole de Dieu, la parole de Dieu n'interdit pas les tatous. Hein, puis je sais qu'il y en a qui utilisent Lévitique, c'est un mauvais texte. Je suis honnête avec toi, c'est un mauvais texte. Est-ce que c'est utile? Ben, il y a des gens qui n'ont pas de problème de conscience de dire, ben oui, je me ferais tatouer Jésus à côté. Est-ce que c'est asservissant? Bon, ben. Hormis le fait que quelquefois, quand t'en as un, t'en veux deux, t'en veux trois, t'en veux quatre, ça s'arrête plus. Mais supposons là, que t'es raisonnable, là, tu te fais bon. OK. Mais mon frère disait, moi, je me suis pas fait tatouer parce que je sais que ça va être une pierre d'achoppement pour des frères et des sœurs dans mon église. Il y a des frères et des sœurs dans mon église qui se sont fait enseigner que c'était mal. Puis si j'arrive avec mes tatous en prêchant la bonne nouvelle de Jésus, ils vont pas entendre la bonne nouvelle de Jésus, ils vont juste voir les tatous. Puis pour eux, c'est charnel, c'est mondain. Donc, par amour pour mon troupeau, je ne me suis pas fait tatouer. Donc, voyez comment est-ce qu'on fonctionne. On passe au prochain point. Ah, là, je t'entends penser. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais Pasteur Guétan, tu n'as pas répondu aux questions. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux? » Écoute-moi bien. Mon rôle n'est pas d'être le Saint-Esprit qui te dit quoi penser, mais d'être ton pasteur qui t'enseigne comment penser. Je ne vais pas remplacer le Saint-Esprit sur des sujets dont la Bible ne parle pas explicitement. Toi, aie la maturité de poser ces questions-là, d'évaluer, de sonder, de chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Je ne suis pas le Saint-Esprit, je suis seulement ton pasteur. Mon rôle n'est pas de te dire quoi penser, mais de t'apprendre comment penser de manière christocentrée. Quelqu'un va dire « Alléluia ». On continue, verset 27. Vers la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, soulevèrent toute la foule et portèrent les mains sur lui en criant « Israélite, au secours, voici l'homme qui enseigne partout et à tous contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce lieu saint. Car auparavant, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. La ville entière fut secouée, le peuple accourut de toutes parts et se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme il cherchait à le tuer, ça dérape, là. La rumeur parvint au tribun de la cohorte que la confusion régnait dans tout Jérusalem. À l'instant même, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. À la vue du tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et donna l'ordre de le lier de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien connaître de certain. À cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, sur les marches, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Il y a une émeute, là. Car la multitude du peuple le suivait en criant à mort. Ce texte nous enseigne comment connaître la volonté de Dieu pour une direction personnelle, pour une décision personnelle, mais aussi pour des déceptions, une déception personnelle. Et c'est ce passage qui amène certains à dire, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu que Paul aille à Jérusalem? Hein, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, on est béni, on est heureux, on est prospère, on a du succès. Et Paul, là, c'est pas le réveil. Et la parole de Dieu nous enseigne une grande vérité. Et là, écoute bien, là, c'est vraiment fondamental, ça peut libérer des gens. Okay? Ça va te libérer, mais c'est pas ce que tu aimes entendre. Donc, tu veux pas l'entendre, mais ça va te faire du bien. Pourquoi c'est la volonté de Dieu que Paul vive ce moment? Pourquoi c'est la volonté de Dieu que Paul se fasse frapper? Pourquoi c'est la volonté de Dieu que Paul se fasse arrêter? Parce que la souffrance fait partie aussi de la volonté de Dieu pour nos vies. Tu ne l'entends pas beaucoup dans les églises. La souffrance fait partie de la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu veut te bénir, Dieu t'aime, Dieu veut que tu sois heureux, mais Dieu veut t'apprendre à être heureux dans la souffrance. D'ailleurs, la preuve que c'est la volonté de Dieu, dans Actes 9-16, lorsque Dieu va envoyer Ananias pour prier sur Paul, il va lui dire, « Cet homme, je vais lui apprendre combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » On voit les disciples, hein, Pierre et Jean, alors qu'ils sont battus, on a vu ça au début de la série, puis ils se réjouissaient, étant dignes d'avoir souffert pour le nom du Seigneur. Les premiers chrétiens comprenaient que la souffrance faisait partie de la volonté de Dieu quelquefois. Écoute-moi bien, OK? Arrêtez tout, là. Je veux ton attention. Lâche ton téléphone. Regarde-moi, OK? Tout le monde me regarde. Écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu souffres, que tu es malade ou que tu vis des difficultés que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu souffres, parce que tu es malade, parce que tu vis des difficultés que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise dans ta maison ou dans ton couple que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu permet souvent la crise pour amener la restauration. Puis il y a des gens qui sont peut-être un peu choqués parce qu'ils se disent « Mais moi, j'avais l'impression que la volonté de Dieu était pour mon confort. » 1 Thessaloniciens 4:3 dit que la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. La volonté de Dieu, ce n'est pas notre confort, ce n'est pas notre bien-être. La volonté de Dieu, c'est notre transformation à l'image de Jésus. Jésus a dit, « Quiconque veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » Jésus a dit, « Celui qui voudra gagner sa vie, la perdra, et celui qui perdra sa vie, la gagnera. » Est-ce que tu réalises? Vous savez, lorsque... À la maison, on a dû faire des travaux de fondation qui ont coûté extrêmement cher. Puis même, on était bénis, là, ça nous a coûté moins cher que ça aurait dû. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais sais-tu quoi? Pourquoi est-ce qu'on a payé tant d'argent? Parce qu'on sait que ça coûte moins cher de mettre l'argent maintenant que d'avoir à subir les dégâts plus tard. Quelquefois, on se ménage pour Jésus. On ne veut pas payer le prix pour Jésus. Le prix qu'on ne paye pas maintenant, on peut payer un prix plus élevé plus tard. Des gens vont dire, oui, mais l'apôtre Paul a failli mourir. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a pire que mourir? Ne pas vivre. Il y a pire que mourir pour Jésus. Ne pas vivre. Quand on regarde la parole de Dieu encore une fois. Jésus a dit que quiconque qui veut venir à ma suite renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. La parole de Dieu nous dit encore une fois que lorsqu'on vient à Jésus et qu'on paie le prix, on se donne. Vous savez, je l'ai souvent dit, puis c'est Bonhoeffer qui le disait, que La grâce est gratuite, mais le salut a tout coûté à Jésus. Puis demande tout aux chrétiens, demande ta vie. C'est gratuit, mais il veut ta vie. Un jour, c'est John Payton, le grand missionnaire, qui est pasteur écossais, qui annonce à son église que Dieu l'amène à être... Dieu l'amène à être missionnaire avec les cannibales. Puis il y a un homme qui se lève, un homme très âgé, qui dit, « Pasteur, non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas mourir mangé par les cannibales. » Et le pasteur Payton regarde et dit, « Frère, avec respect, vous êtes très âgé. Très bientôt, là, vous allez mourir, vous allez être mangé par les vers. » Donc, vivre pour Jésus puis manger par des cannibales ou rester ici puis manger par des vers, on va finir manger de manière ou d'une autre. Donc, mieux vaut vivre pour Jésus. Et Paul savait qu'il y a pire que mourir pour Jésus, ne pas vivre pour Jésus. Et je termine, verset 37. Alors que Paul est sur les marches, voici son discours. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, « M'est-il permis de te dire quelque chose? » Le tribun le lui permit et Paul, debout sur les marches, fit au peuple un signe de la main et se fit un grand silence. Alors, il leur adressa la parole en langue hébraïque. « Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Et là, Paul, en fait une récapitulation de ce qu'il a vécu dans les Actes des Apôtres. Donc, je t'invite à le lire à la maison. On l'a déjà vu. Relis-le, tu vas être béni. Mais je vais aller à l'essentiel. Verset 14. « Et racontant ce qu'Ananias, ce que Dieu dit... » Ce que Dieu dit à Ananias, c'est ce qu'Ananias dit à l'apôtre Paul. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. » Tu vois, la volonté revient encore, là. « À voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes, ce que tu as vu et entendu. » Et c'est intéressant parce que maintenant, on voit une autre facette de la volonté de Dieu, qui est la volonté révélée de Dieu. Et la volonté de Dieu pour Paul, c'est qu'il voit Jésus et qu'il entende la bonne nouvelle de la grâce et qu'il soit à son tour témoin de Jésus et de la bonne nouvelle de la grâce. Et ce qu'on voit ici, c'est une chose de connaître la volonté de Dieu pour une direction, ça en est une autre pour une décision, ça en est une autre pour une déception, mais le plus important, c'est pour une destination. Nous pratiquons la volonté de Dieu parce que nous savons que notre destination, c'est la vie éternelle. Jésus va dire, c'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront au royaume de mon Père, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et c'est intéressant que Paul parle de cette volonté dans son discours parce qu'il y a deux types de volonté. OK, reste avec moi encore quelques instants. Il y a vraiment de l'enseignement profond et riche pour toi, là. La Bible enseigne qu'il y a deux types de volonté. Il y a la volonté cachée de Dieu, ce qu'on ne sait pas pour nos vies, la volonté décrétée, elle est mystérieuse. Et il y a la volonté révélée, la volonté désirée de Dieu, la parole de Dieu. Donc, Dieu a une volonté, des éléments, on n'a pas tous les détails de notre vie, c'est la volonté cachée. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a révélé également sa volonté. 95% des défis dans ta vie sont répondus par la volonté révélée de la parole de Dieu. Quand Paul dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est juste, bon et parfait. La volonté de Dieu, c'est la Bible. Donc, quelquefois, dans la parole de Dieu, quand tu vois la volonté de Dieu, on parle de ce que Dieu enseigne. Ce livre est la volonté de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu, lis la Bible. Et en conclusion, alors que quelques principes qui me servent de conclusion, pour la distinction entre cette volonté cachée qu'on a vue au début et cette volonté révélée. C'est pourquoi 1 Jean 2,17 dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est-à-dire que quand Jésus t'a sauvé, ben, tu pratiques la parole de Dieu puis tu vis éternellement parce que tu es sauvé. Mais entre les deux, alors que tu te diriges vers cette destination éternelle, tu pratiques la volonté révélée de Dieu qui pratique la parole de Dieu. Donc, 3 choses en terminant. Ça me sert de conclusion. Premièrement, confie-toi en Jésus qui a parfaitement accompli la volonté de Dieu pour toi. Tous ceux qui cherchent la volonté de Dieu, qui sont de la volonté de Dieu, réalisent que la volonté de Dieu que tu reçois la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Hébreux 17, Jésus dit, je suis venu pour faire la volonté du Père. Jésus a parfaitement accompli la volonté de Dieu parce que nous, on est incapables de l'accomplir parfaitement. C'est pourquoi Paul dit dans son message, comme il parle de la volonté de Dieu, m'a destiné à connaître sa volonté, qui est de voir le juste, qui est voir Jésus. Jésus est juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Moi, je suis injuste parce que je suis incapable de parfaitement accomplir la volonté de Dieu. Et pourquoi moi, je ne suis pas stressé avec la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque matin, lorsque je me lève, je prends un moment, puis je mets ma journée sur les rails. Vous savez, quand tu t'accroches à une locomotive, le wagon qui t'accroche à une locomotive n'est pas nerveux de bifurquer à droite et à gauche, il ne cherche pas la route, pourquoi il est accroché à la locomotive? Je suis accroché à Jésus, puis Jésus fait la volonté de Dieu, je me laisse traîner par Jésus. Donc, je ne suis pas inquiet. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout ne dépend pas du fait que moi, j'accomplisse la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je m'accroche à Jésus, puis je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Deuxième chose. Donc, premièrement, confie-toi en Jésus, qui a parfaitement accompli la volonté de Dieu pour toi. Deuxièmement, focalise sur la volonté de Dieu révélée dans la Bible. Je l'ai mentionné, 95% de tes défis sont dans ce livre. Donc, focalise là-dessus. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a à vivre, tous nos dilemmes sont là. Ah, tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, c'est quoi ta volonté? Est-ce que je peux mentir? Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que je dois frauder? Est-ce que je dois prier? Est-ce que je peux tromper ma femme? Est-ce que je peux divorcer? Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que je dois persévérer? C'est dans la volonté révélée de Dieu. 95% des questions que tu te poses sont dans le livre. Lis le livre. C'est pourquoi Swindoll va dire, Chuck Swindoll va dire, ceux qui luttent le moins contre la volonté de Dieu sont ceux qui connaissent le mieux la parole de Dieu. Je ne stresse pas trop avec la volonté de Dieu parce que je connais la parole de Dieu qui est la volonté révélée de Dieu. Donc, il y a des gens, arrête de te fier à ton instinct, à ton flair, à ton sixième sens, à ton cœur, à ton petit doigt. Commence à te fier à la Bible. Et je vais dire quelque chose qui va choquer des gens. Pour les autres, arrête de mettre des toisons devant le Seigneur. Arrête d'attendre un rêve. Arrête d'attendre une vision, une porte ouverte, d'avoir un verset au hasard qui apparaît. Arrête de tirer au sort, arrête d'attendre un signe dans le ciel. Le petit frisson qui confirme la volonté de Dieu, lis la Bible. Lis la Bible. Tu veux connaître la volonté de Dieu, lis la Bible. Et troisièmement, donc, focalise sur la volonté de Dieu, sur la volonté révélée de Dieu dans la Bible. Puis troisièmement, fais confiance à Dieu pour sa volonté cachée. Alors que il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui nous demeurent cachées. Puis le chrétien souvent est hésitant. Sais-tu quoi? À un moment donné, prends une décision. C'est une décision christocentrique, centrée sur Jésus. Remets ça dans la prière. Fais un pas de foi. Et fais confiance à Dieu pour sa volonté cachée. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, accroche-toi à Jésus. Confie-toi sur Jésus. Focalise sur la volonté révélée. Puis fais confiance à Dieu pour sa volonté cachée. Seigneur, pour tous nos défis, pour tous nos dilemmes, pour toutes nos questions, nous te disons que ta volonté soit faite. Amen.